Un livre, un auteur, son écriture, son univers. Embarquement immédiat pour un voyage littéraire. Une collection d'émissions signée Tout avec presque rien. Le poids du papillon. Cela vous évoque un effet, n'est-ce pas? L'idée que tout est lié, au-delà de toute apparence. Il existe des causes à effet dont nous ne maîtrisons pas encore la cohérence. Le poids du papillon. C'est le titre du livre de ce podcast. Un livre écrit par un auteur italien contemporain, Eri De Luca. Un livre très court, un petit trésor littéraire, tant par l'histoire qu'il met en scène que par l'écriture qu'il apporte. L'auteur nous invite à la montagne, ses cimes et ses forêts. Raconter la vie d'un chamois, cela peut avoir l'air d'une fable. C'est bien autre chose, pourtant. Fermez les yeux. Partez en montagne. Entendez-vous l'eau espiègle des ruisseaux dévaler en riant les creux des roches noires? Entendez-vous bruisser les feuilles des grands arbres rougissants, les grands espaces? Nous sommes à la montagne, c'est l'automne. Ça et là, les derniers papillons blancs préfigurent les flocons de neige à venir. C'est l'histoire d'un chamois. Le roi des chamois. Non, nous ne sommes pas dans un conte de fées. Eri De Luca, même s'il choisit de parler au nom d'un chamois, ne bascule jamais dans l'invraisemblable. À vrai dire, il flirte avec le merveilleux, juste assez pour nous enchanter, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre le genre. Sa mère avait été abattue par un chasseur. Dans ses narines de petit animal se grava l'odeur de l'homme et de la poudre à fusil. Le livre s'ouvre sur la violence et le sang. Le jeune chamois voit sa mère tuée par un chasseur et sa sœur emportée par un aigle. Un commencement bien cruel, de ces cruautés que l'on trouve dans les contes de fées. Rien n'est pourtant imaginaire. Tout est ici bien réel, réaliste. Le jeune chamois va grandir seul. Son instinct le porte à vouloir régner. Il va conquérir son troupeau en éventrant le mal en place. Et à partir de là, il régnera en roi. Nous n'en sommes alors qu'à la troisième page du roman. Tout commence ici en réalité. C'est l'histoire d'un chamois. Un chamois magnifique, grand, solitaire, caché dans les forêts. Il se montre rarement, mais il est là. Il veille. Sans se mêler aux siens, il règne. La façon dont Eri De Luca écrit et décrit son personnage animal est si poétique que l'on ne sait plus s'il s'agit de merveilleux ou tout simplement de poésie. Voici un extrait qui, dans ce début de roman, présente la course du chamois, pour ne pas dire le vol du chamois. Écoutez. Les sabots des chamois sont les quatre doigts d'un violoniste. Ils vont à l'aveuglette sans se tromper d'un millimètre. Ils giclent sur des à-pics, jongleurs en montée, acrobates en descente. Ce sont des artistes de cirque pour le public des montagnes. Les sabots des chamois s'agrippent à l'air. Le cale en forme de coussinet sert de silencieux quand il veut. Sinon, l'ongle divisé en deux est une castagnette de flamenco. Les sabots des chamois sont quatre as dans la poche d'un tricheur. Avec eux, la pesanteur est une variante du thème, pas une loi. chamois n'est pas le seul héros du livre. Il y a un autre personnage principal, c'est le chasseur. Un chasseur qui admire le roi des chamois et qui, pour cette raison précisément, parce qu'il connaît sa valeur, cherche à le tuer. Voici en quelques mots l'aveu du chasseur à propos des chamois. Leur seau était un raccommodage entre deux bords, un point de suture au-dessus du vide. L'homme enviait la supériorité de l'animal. Il reconnaissait la bassesse du chasseur qui invente un expédient, l'embuscade à distance. Eri De Luca met en parallèle la vie de l'homme et celle de l'animal, la pensée de l'homme et celle de l'animal. Mais l'animal a-t-il une pensée? Qu'est-ce que la pensée? En lisant cette histoire, on s'interroge. Ce qui anime le chamois, ce n'est pas vraiment la pensée, ce n'est pas simplement l'instinct non plus. Eri De Luca, sous ses airs de fabuliste, nous trouble un peu. Son livre, en définitive, répond à une question simple. Qu'est-ce qu'être sauvage? Le mot « sauvage » vient du mot « selva », la forêt. Mais c'est un mot galvaudé, ce mot de « sauvage ». Il évoque la liberté, les espaces que rien n'entrave, tout ce qui est brut, intact, l'état de nature, l'instinct. En réalité, nous avons tendance à définir le sauvage par ce qu'il n'est pas. Le sauvage, c'est le contraire du dompté, de l'apprivoisé, du docile, du raisonné, du calculé. Certains disent que le sauvage, c'est le contraire du civilisé. C'est l'être solitaire par excellence. Connaissez le film Into the Wild, réalisé par Sean Penn? Difficile à traduire en français. On pourrait dire « Vers l'état sauvage ». Eh bien, le titre du livre dont il est issu en dit long sur la quête de ce jeune homme pour retrouver sa nature sauvage. Ce livre, de John Krakauer, s'intitule « Voyage au bout de la solitude ». La sauvagerie serait donc une forme de solitude. Qu'est-ce que cet état sauvage? En quoi consiste alors la pensée sauvage? Tiens, encore le titre d'un livre, La pensée sauvage. Le célèbre essai de Claude Lévi-Strauss, dans lequel il démontre que la pensée n'est pas l'apanage des gens que l'on dit civilisés. Eri De Luca va plus loin. En s'immisçant dans la pensée du chamois, il met en perspective l'homme et l'animal, une façon audacieuse d'approcher la notion de sauvage. La montagne cache. Elle a des ruelles, des greniers, des souterrains, comme la ville, mais elle est plus secrète. Il avait des cachettes à droite et à gauche, des dépôts avec fusils et cartouches, des abris et des bivouacs invisibles. Il connaissait son territoire mieux que tout autre spécimen animal. L'homme est doué pour la géographie. C'est la mesure qu'il apprend le mieux, même sans école. Thank you. chasseur qu'Iride Luca choisit de mettre en scène est bien un sauvage aux yeux des autres hommes. Il s'est isolé dans la montagne, il braconne, loin des autres, loin des lois. Il vit au rythme des saisons, au gré du climat, comme un chamois. Ses choix de vie sont le résultat de ses blessures, de ses erreurs. Il le sait. Mais il ne se raisonne pas. Il admet. Il prend cela comme une donnée. Jamais il ne passe par le filtre du raisonnement. Même sa relation à la femme est brute. Rien ne passe par l'intellect, si ce n'est la précaution ultime de fuir pour ne pas risquer de s'abandonner. À vif. Tout est à vif en lui. Et c'est peut-être déjà une piste pour approcher l'état sauvage. Le chasseur souffre de n'avoir pas des sens aussi aiguisés que l'animal. Il ne sent pas les choses arriver. Il ne sent pas aussi bien les odeurs, les présences. Et c'est pour cela qu'il doit compenser. L'espèce humaine est dotée de bien peu de sens. Elle les améliore grâce au résumé de l'intelligence. Le cerveau de l'homme est un ruminant. Il remâche les informations des sens, les combine en probabilités. L'homme est ainsi capable de préméditer le temps, de le projeter. C'est aussi sa damnation, car il en retire la certitude de mourir. Voilà ce qui retient le chasseur de l'état sauvage animal, la conscience du temps. Iride Luca, tout au long de son ouvrage, n'aura de cesse de nous présenter, à contrario, comment le chamois agit, comment le passé ou le futur ne sont jamais une théorie, mais sont pour lui des variantes du présent. Le présent est la seule connaissance qui est utile, mais l'homme ne sait pas vivre dans le présent, remarque Iride Luca. Ainsi, le chamois ne sait pas vraiment qu'il va mourir. Il le sent. C'est un savoir différent. Le roi des chamois sut brusquement que c'était le jour. Les animaux vivent dans le présent, comme du vin en bouteille, prêts à sortir. Les animaux savent le temps, à temps, quand il est utile de le savoir. Y penser avant est la ruine de l'homme et ne le prépare pas à être prêt pour autant. Cette réflexion sur la façon de ne vivre qu'au présent, c'est aussi une belle façon de comprendre que tuer pour manger ou tuer pour dominer et régner proviennent du même instinct sauvage. Il n'y a pas de cruauté, pas d'injustice quand on est simplement à l'écoute de ce qui s'impose comme une évidence, sans le frein du raisonnement. Le chasseur a intégré cela. Lorsqu'un chamois éventre un autre chamois pour lui succéder en roi, c'est afin de pouvoir couvrir toutes les femelles et poser sa marque, sa force à toutes les générations à venir. Voilà encore une façon d'être simplement à l'écoute du présent. Et la survie de l'espèce n'est, là encore, qu'une variante du présent. Le chasseur sait cela. Et c'est en cela qu'il éprouve sa limite proprement humaine. Il admire le roi des chamois. Il connaît sa supériorité. Il en est jaloux. Il veut se mesurer à lui. Et c'est pour cela qu'il voudrait tuer le roi des chamois. Tuer pour dominer, pour régner à sa place. Vendre sa fourrure ou sa viande, ce ne sont que des prétextes pour ce chamois-là. Lui-même, il se l'avoue. Non, ce qui le motive est du même ordre que ce qui un jour a poussé le chamois à tuer le roi précédent. Tuer pour régner. L'homme est sauvage là, oui, mais il n'est pas chamois. Le combat n'est pas loyal. L'enjeu est opposé. Je n'ai pas assez parlé de l'atmosphère des montagnes qu'Eri De Luca parvient à nous faire sentir à travers son écriture. Je vous recommande de lire ce livre au coin du feu. Voici un extrait qui va nous faire aimer les soirées où l'on se love bien à l'abri près de la cheminée, loin de la nature sauvage, justement. C'est le mois de novembre. L'homme entend tomber le rideau métallique de l'hiver. Dans les nuits où le vent arrache les arbres les plus exposés à leurs racines, la pierre et le bois de la cabane se frottent entre eux et lancent une plainte. Le feu fait claquer des baisers de réconfort. L'âpreté extérieure donne des coups d'épaule, mais la flamme allumée garde unis le bois et la pierre. Tant qu'elle brille dans le noir, la pièce est une forteresse. Et l'harmonica est là aussi, pour dominer le bruit de la tempête. Quand la tempête se calme, elle laisse la neige accroupie sur la cabane, comme une poule qui couve. La pendule à voix de coucou en bois frappe des coups de poussin dans son œuf. La façon dont le chasseur apprécie de se retrouver au coin du feu, le soir, après une journée, en dit long aussi sur la part d'humanité irréductible qui fait sa propre nature. Quand un homme s'arrête pour regarder les nuages, il voit défiler le temps au-dessus de lui, un vent qui enjambe. Alors il faut se remettre debout et le rattraper. Il se remettait au travail, débarrassait les troncs des branches latérales, laissant la touffe du sommet. À la fin de la coupe, il était épuisé. Chez lui, avec le premier feu allumé, il retrouvait ses forces et la patience de mener le jour à sa finition. Le soir émousse, poli une dernière fois au papier de verre, le jour fait à la main. Face au ciel, qui le soir descendait jusqu'à terre, c'était de bonnes pensées devant le feu, pour accompagner les bavardages du bois, s'effritant dans la flamme, et elle réchauffe le sang. Lire Eri De Luca, c'est un ravissement. On dirait que chaque détail fait émerger du réel ce qu'il a de plus vrai, de plus subtil. Et puis, je n'ai pas parlé des papillons. Pourquoi ce titre, Le poids du papillon ? Je ne pourrais pas donner la réponse sans dévoiler la part la plus poétique et sans doute la plus belle de ce roman. Allez donc lire ce tout petit ouvrage, ciselé comme un bijou. Lisez-le au coin du feu, caché sous une couverture, et pas trop loin de la fenêtre où dansent les couleurs du temps. Merci à Marie pour le mixage et les images de notre bande-annonce. Si vous voulez retrouver l'univers des illustrations de Marie et de ma voix, allez donc visiter notre chaîne YouTube intitulée « Tout avec presque rien ». Et pour approfondir les thématiques abordées dans ce podcast, rendez-vous sur notre site. C'est simple, tapez sur votre moteur de recherche « Tout avec presque rien ». À bientôt.